Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Salut.
C'est les infos choisies. On est vendredi 23 février. Il est 12h28 à l'horloge du studio
qui est en retard.
Il est 12h31 en réalité. Et c'est les infos choisies. Bonjour à tout le monde qui nous écoute sur 88.4 FM à Marseille et ailleurs.
Sur Radio Ayoli en direct. Bonjour Avignon.
Bonjour Avignon, bonjour la Bretagne.
Bonjour la technique.
Salut, salut. J'ai qu'à commencer.
Je pense que là, t'es bien là.
Alors, la rétrospective Jocelyne Saab, actuellement à Marseille, résonne avec les bombardements sur Beyrouth qui ont eu lieu fin janvier. Ceux sur Gaza depuis novembre et ceux promis sur Rafah par Benny Gantz, ministre israélien, le 18 février. Jocelyne Saab était une journaliste franco-libanaise qui a suivi l'actualité palestinienne dans la fin des années 70 et 80. Elle parle de luttes qu'on nommait armées dans ces années-là et qui ont été remplacées par le terme « terrorisme » dans tous les médias actuels. Forcément, ça questionne. Elle parle des bombes larguées par avion et des conséquences désastreuses sur les vies et les maisons. Elle explique que cette distance entre celui qui largue la bombe et les personnes tuées dans les décombres pourrait sembler plus acceptable qu'un attentat. Elle nous montre que c'est aussi violent et dur qu'une attaque terrestre avec des haches ou des calaches. Elle nous raconte qu'elle aussi a perdu sa maison, mais que malgré tout, le désir de soutenir la lutte palestinienne reste bien ancré en elle. Et dans la salle obscure, la projection finit, je tremble en pensant aux marchands d'armes. Depuis 10 ans, la France a vendu pour 208 millions d'euros de matériel militaire à Israël, dont 25,6 millions en 2022. Un chiffre qui ne représente que 0,2% des ventes totales de la France, des ventes de la France à l'étranger. Ça donne le tournis. Après Amnesty International le 14 février, la députée insoumise Mathilde Panot interpellait le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en demandant un embargo et la liste des armes et des composants déjà livrés par la France à Israël depuis 2023. Sans réponse, bien évidemment. Le sénateur communiste Fabien Gay demandait le lendemain au Quai d'Orsay, donc le 15 février, des chiffres précis sur les exports et autorisations d'export d'armes décidées par la France vers Israël en 2023 et le détail des équipements qui ont été livrés dans cette période. Une requête restée sans réponse à ce stade et qui ne devrait aboutir qu'en 2025. Le temps d'utiliser ces armes pour tuer.
Et pendant ce temps, on apprend que la mairie de Marseille a finalement remis son aide financière aux assos palestiniennes grâce à la mobilisation et la pression du collectif Urgence Palestine-Marseille. J'ai pas vu, mais apparemment, sur le dernier journal de la mairie distribué dans certaines boîtes aux lettres, les premières 4 pages, c'est Benoît Payan qui décore les nouveaux policiers municipaux. La classe. On me glisse aussi que Payan est un gros con. Et que ça fait tellement de bien de le crier dans les calanques et sur la Canebière et sur le ferry du Frioul. On n'oublie pas que ces îles, donc les îles de Marseille, ont le plus gros score FN de Mars.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Pour la régularisation de tous les sans-papiers. En octobre dernier, en Île-de-France, il y a eu une grève massive de travailleurs sans papiers qui avait déclenché en même temps une grève coordonnée dans plus d'une trentaine d'entreprises. C'était majoritairement des intérimaires dans les secteurs du bâtiment, de la logistique, du nettoyage et de la distribution. Il y a une coordination entre les unions départementales CGT de tous les départements d'Île-de-France. L'idée, c'était de partir tous ensemble au même moment, à la même heure, avec pour méthode l'envahissement des agences d'intérim. Ils demandaient à leur patron un CERFA, un document indispensable au dépôt des demandes de régularisation en préfecture. La lutte paye. Une centaine de grévistes ont récemment obtenu des récépissés avec autorisation de travail. Dans le cadre de la grève menée, ils avaient également obtenu de leur employeur qu'ils s'engagent à les reprendre dans la société dès l'obtention de l'autorisation de travail. Ils ont donc pu réintégrer leur poste. Même s'il s'agit pour l'instant que de régularisation précaire et que rien n'est acquis pour la suite, cette nouvelle étape vers la régularisation montre la force d'une stratégie fondée sur l'instauration d'un rapport de force et sur une coordination importante des sans-papiers. Et on n'oublie pas que pendant ce temps-là, des nombreuses personnes luttent elles aussi pour obtenir leur régularisation. Que la loi Darmanin récemment adoptée va durcir les possibilités de régularisation, notamment en allongeant la durée d'effectivité des OQTF, obligation de quitter le territoire français, à 3 ans, lesquelles empêchent tout dépôt de demande. Récemment, donc, il y a eu plusieurs grèves, notamment des occupations des chantiers pour les Jeux Olympiques à venir, des employés d'Emmaüs ou encore de Chronopost à Alfortville, qui sont aussi toujours en lutte. Vous pouvez retrouver cet article sur le site de Révolution Permanente.
Salut les infos, c'est Anagramme sur le répondeur et j'ai quelque chose qui ressemble à une bonne nouvelle. Il y a 3 semaines, le 2 février, le Conseil d'État a annulé la partie du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, qui permet à la police d'ordonner des refus d'entrée en France. Et ça a enfin produit un effet sur les pratiques de refoulement systématique à la frontière qui avaient lieu depuis 2015, quand les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen avaient été rétablis. Et ces dernières semaines, on a bien vu baisser le nombre de refoulements à la frontière à Menton. En fait, le Conseil d'État a répercuté un arrêt du 21 septembre de la Cour de justice européenne qui avait condamné ces refoulements, les pushbacks. Ces dernières années, la France avait été condamnée à plusieurs reprises, mais elle avait encaissé ces condamnations sans aucun changement dans les pratiques. Et c'était donc un peu une surprise de voir des effets concrets de cette décision du Conseil d'État sur ce qui se passe à la frontière. Alors, sur les 2 premières semaines de février, le nombre de refoulements a été divisé par 5 par rapport à janvier. Il est passé d'une 50aine de personnes renvoyées par jour en Italie à 10aine. Alors la plupart des personnes qui sont interceptées actuellement sont relâchées en France. Certaines, principalement des Érythréennes, des Soudanaises, sont même invitées à rejoindre les PADA, les plateformes d'accueil et de demande d'asile de Nice et de Marseille, pour régulariser leur situation. En fait, c'est juste le respect de la réglementation européenne qui se passe là, après presque 10 ans de dérive juridique. On va voir si ça va durer pour combien de temps, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais c'est déjà un grand pas pour toutes les personnes en exil et en transit, et aussi pour les solidaires qui luttent pour que leurs droits soient respectés. Ça confirme aussi sur le plan judiciaire à quel point ce système français de refoulement mis en place depuis 2015 était illégitime et contraire aux dispositions européennes. Alors évidemment, Darmanin, ministre de l'Intérieur, a fait aucun commentaire à ce sujet et le dispositif massif de militarisation continue malheureusement d'être mis en place à la frontière franco-italienne, même si on n'a pas encore trop vu les drones annoncés l'année dernière. Bref, les personnes en transit continuent d'être interceptées et filtrées selon le critère habituel du profilage racial, mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le résultat de ces contrôles. Pour se permettre de refouler en Italie une personne entrée sans papier sur le territoire français, la PAF, Police aux frontières, doit collecter des données relatives à l'identité et à la nationalité de cette personne, et il faut obtenir de l'Italie des documents qui établissent avec certitude le droit de cette personne à séjourner en Italie ou la preuve irréfutable qu'elle est passée en Italie. L'Italie a alors 48 heures pour répondre aux demandes de réadmission individuelle, et c'est que s'ils reçoivent une réponse positive que les flics français peuvent ramener les personnes dans les bureaux de la PAF italienne. Et là, les personnes refoulées peuvent encore décider de contester le décret de réadmission, de faire appel à un avocat, à un interprète, et de demander l'asile. Bon, comme c'est tout récent, il va falloir un peu plus de temps pour comprendre s'il s'agit d'un changement définitif ou d'une simple phase de réorganisation du système de refoulement français. Généralement, au printemps, le nombre de personnes transitant par l'Italie augmente. On va voir si ces nouvelles pratiques vont perdurer. Il faut aussi savoir qu'une nouvelle zone de détention pour les personnes en attente de refoulement vers l'Italie a été construite en janvier à la frontière du pont de San Ludovico, la frontière du bord de mer, à Menton. Alors voilà, les personnes en exil continuent de traverser la frontière, comme elles l'ont toujours fait depuis des années, et en ce moment, c'est devenu bien plus facile pour les personnes qui n'ont pas été fichées en Italie.
Bonjour, bonjour, et nous allons nous écouter une petite musique. On voulait juste rappeler qu'il y a la possibilité de laisser un message sur le site Info Choisi. Merci Anagram pour cette petite chronique qu'elle a envoyée via ce lien.
Je suis pas susceptible, je suis hypersensible. Mes émotions sont des messagères, femme noire mais pas en colère. C'est pas mes rivières pourpres qui noient mon amour propre. C'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui raturent. La voix dans les aigus fragilise, lâcher prise qu'on hystérise. Interdiction de hausser le ton. Reste dans le cadre, la femme trompe.
Aimé Kemi, Aimé Kemi, oulé oulé. Aimé Kemi, Aimé Kemi, oulé. J'en cansa de ser forte, hoje un cresso ser mi. E todo dia ta si mi anavo campo minado. Sem ter eco sorte pa monte em costa rixo.
C'est pas des stories mais des notes de mon journal extime. Mon intime pour les autres, mis en scène comme en vitrine. Est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, les femmes multitask, vues sous un autre angle. Condamnées à être des femmes puissantes, héroïnes érigées en icône, mais on peut être résiliente sans avoir des valeurs de bonhomme. Image d'Amazon et de guerrière. L'empathie est un mauvais critère. On te drill, 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 drill. Pas de tache de sang, pas de tache d'huile.
Aimé Kemi, Aimé Kemi, oulé oulé. Aimé Kemi, Aimé Kemi, oulé oulé. Aimé Kemi. Cansa de ser forte, hoje cresço ser mi. E todo dia tá assim, minha nabo campo minado. Sem ter eco sorte pra manter um costa rixo. Cusé que boja na minha, uma minha são tormento.
Les fibres fines leur combinent, échappent sous la poitrine. Le cul contre le mur, on rétrécit d'une pointure. Pour éviter les frotteurs, des heures de pointe, absorbées par son écran, inaccessible et hors d'atteinte, à fleur de peau. Donc à quand, jusqu'à quand, s'étendre à miroir mon malaise, creuser un fossé entre deux chaises, répondre à cette impunité archaïque. Les hommes possèdent l'espace public, interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe.
On vient de s'écouter Balogi et Mayra Andrade, Matrone.
Merci pour la musique. Alors, en discutant entre nous sur comment parler de la panthéonisation de Missak et Méline Manoukian, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas la même perception de cet événement. Et en même temps, c'est pas étonnant, au regard de la manière dont ceux qui font l'histoire nous la racontent, et surtout, la manière dont ils la manipulent. Alors, je sais pas si vous saviez, mais il y a une place Manoukian à Marseille. probablement parce qu'il avait débarqué à Marseille avec sa compagne, comme des milliers d'Arméniens, fuyant le génocide perpétré par Atatürk en 1917. La place est un semblant de jardin. Il est sur la, enfin, cette place est sur la route des Catalans, c'est accolé au Sofitel au bout du Vieux-Port. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps, cela ressemblait plutôt à un parc à crottes de chiens au milieu de broussailles et de haies pataillées. C'était très peu entretenu jusqu'à ce que la mairie se réveille. Et comme par hasard, quand l'État décide de faire entrer au Panthéon le chef des FTP-MOI, francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée, tristement rendu célèbre par les nazis et le gouvernement français de l'époque au travers d'une affiche de propagande, l'affiche rouge. Dans cette affiche, ils étaient dénoncés comme terroristes, doublement réprimés parce qu'étrangers. Ce sont 22 hommes qui ont été fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944 et une femme, Olga Bankic, guillotinée le 10 mai 1944 à Stuttgart. Pour fait de terrorisme hier et qu'on célèbre aujourd'hui comme résistant et résistante. Sordide récupération politique de la part de politiciens sans face. À l'heure où ils votent une loi qui remet en question le droit du sol, à l'heure où ils se donnent la possibilité de retirer la nationalité française aux binationaux s'ils estiment que ces personnes jugées par leurs tribunaux sont des terroristes. Là, ils nous font le coup d'honorer la mémoire des étrangers dans la résistance. Ils sont en train de nous rendre fous, en nous mettant tout le temps face à l'impossible. Mais ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que les rois de l'embrouille, on le vend en poupe, toutes tendances confondues.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Ouais, petit coup de gueule depuis les bas-fonds de la ruralité. Ouais, face aux manifs réactionnaires des agriculteurs là, ces derniers temps en France. Donc, je vous rassure, les manifs se passent bien. Il n'y a pas de débordement avec la police, évidemment. Hein, tout ça est bien bouclé par la préfecture. Mais en fait, c'est le lobby de l'agro-industrie qui manifeste pour pouvoir garder les mêmes pratiques qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Faut savoir que ces gens-là, en fait, ils détruisent notre territoire. Ils sont pas représentants de la ruralité. Ils empêchent les gens de vivre autour d'eux. Ils détruisent le territoire, les haies, évidemment. Ils menacent les gens physiquement, les chiens. Bon, on voit aussi leur méthode d'élevage où ils torturent les animaux sous nos yeux, en fait. Voilà, je voulais juste rappeler que c'était notre territoire, pas le leur. Eux, ils disent qu'ils sont professionnels, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est des conneries. On a notre mot à dire face à ces pratiques réactionnaires, donc voilà. Et juste pour terminer, là actuellement, ils se plaignent beaucoup du marché ukrainien avec lequel ils seraient en concurrence. Je ne sais pas sur quel marché en fait ils sont en concurrence avec l'Ukraine. Bon, bref, en fait, on s'en fout un peu. Il semblerait que actuellement la donne, ce soit plutôt de supporter l'Ukraine face à ce qu'elle est en train de vivre, la guerre avec la Russie en ce moment, et de se dire à quel point on est concurrentiel d'un point de vue agricole sur l'Ukraine, ça fait un peu tiep. Bon, voilà, les agris, les chefs d'entreprise agris, là, fermez bien vos gueules.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Merci au poteau qui nous a envoyé ce petit son depuis la Bretagne. Big up. On continue sur quelques brèves. Enedis. Le 16 mars 2023, la France connaissait déjà depuis plusieurs semaines des manifs historiques en opposition à la réforme des retraites, finalement promulguée un mois plus tard. Ce matin-là, la police tire du lit quatre syndicalistes marseillais de la CGT Mines et Énergie. Deux autres les rejoindront en garde à vue. Trois d'entre eux étaient jugés mercredi 21, donc là avant-hier, par le tribunal correctionnel de Marseille après une plainte de leur employeur, Enedis. la justice leur reproche des faits de vol dans un lieu destiné à l'entrepôt de matériel par une personne chargée d'une mission de service public. Vol suivi de destruction en réunion par personne dissimulant volontairement ou tout en partie son visage afin de ne pas être identifié. Oh my god. En l'espèce, des opérations Robin des Bois, au cours desquelles des militants avaient basculé en mode gratuit des compteurs d'électricité de foyers ou artisans en difficulté. Ils avaient aussi empêché des coupures pour des impayés, ce qui implique d'accéder aux compteurs, propriété d'Enedis. On note donc qu'il est possible de passer ces compteurs en mode gratuit.
C'est bon à savoir. Alors, et maintenant, on passe... la semaine dernière, on vous en a parlé. C'est une lutte qui se passe dans une blanchisserie Pamar à Marseille. On en a parlé donc la semaine dernière. Et cette blanchisserie dans le 15e, la lutte continue de ces grévistes. On voulait juste vous rappeler qu'il y a toujours une cagnotte pour les personnes qui ne sont pas payées pendant la grève. Elle est sur CotizUp, CotizUp.com. Je m'arrête là. Vous allez dans Solidarité financière et c'est pas marre. Et on rappelle juste le lieu. Il est possible de leur rendre visite tous les jours de 7h30 à 13h sur le piquet de grève au 47 avenue Bois-Baudran dans le 15e arrondissement de Marseille.
Une brève sur la condamnation des fachos de Romans-sur-Isère. Donc c'était, petit rappel, cet homme âgé de 19 à 23 ans est jugé pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou dégradations suite à la descente du samedi 25 novembre 2023. Et cette descente, c'était environ 80 militants d'extrême droite qui étaient descendus dans les rues du quartier populaire de La Monnaie à Romans-sur-Isère pour venger le lycéen mortellement blessé lors d'un bal à Crépole la semaine d'avant ou deux semaines avant. Donc le tribunal correctionnel de Valence, dans son lit délibéré rendu ce mercredi 21 février, a condamné 5 des 7 prévenus à 5 mois de prison avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de participation à un groupement armé en vue de commettre des violences et condamnés. Les deux derniers ont été relaxés.
Et on relaie un appel de la librairie Camarade Transit à Marseille qui a besoin d'argent. Comme vous le savez, la librairie Transit est en transit depuis le mois de novembre 2023 suite à un signalement déposé en mairie centrale. Pour nous permettre de reprendre nos soirées et rencontres avec des auteurs, autrices dans l'enceinte de la librairie, on doit effectuer des travaux. Ces travaux de mise en conformité avec les normes de sécurité relatives à un établissement recevant du public, jauge de plus de 20 personnes, ont un coût que la librairie ne peut assumer seule. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur leur site internet directement, Librairie Transit. Et c'est parti pour un agenda bien dodu, encore une fois, pour les jours à venir. Demain, samedi 24 février, réserve ton après-midi pour tenter de ramener la coupe à la maison et rencontrer des gens des terres à balayer Darmanin et les fachos. À l'initiative du collectif Marseille vs Darmanin, on organise un tournoi de foot antiraciste et antifasciste. L'idée, c'est de surtout se retrouver autour du sport pour réaffirmer notre solidarité à la Palestine, notre refus de la loi immigration, la liberté d'installation, de circulation et la régularisation de tous et toutes. Enfin, nous combattons fermement l'extrême droite et ses idées qui n'a pas sa place ni à Marseille ni ailleurs. Et on vous propose un atelier banderole en vue de la manif du 3 mars dont on vous parle juste après. Donc rendez-vous de 13h à 17h au stade de foot 29 boulevard Burel à Belle-de-Mai. Il y aura des jeux, des gardes d'enfants, buvettes. Pour jouer au foot, le mieux c'est de s'inscrire. Sinon, venir 30 minutes à l'avance pour celles qui n'ont pas d'équipe déjà faite. Les inscriptions, c'est sur cette adresse mail Marseille contre la loi Darmanin @riseup.net. Tout attaché, tout en minuscules.
On aurait pu les plier. Hein. Et on continue toujours demain. Donc demain, de 17h à 20h, au 35 boulevard Longchamp, c'est Ensemble contre le racisme. Ce sont des rencontres, des échanges qui sont proposés par SMS Bivice, qui est une asso de musique qui porte le combat pour Ibrahim Ali. Alors pour rappel, Ibrahim Ali, c'est un garçon qui était âgé de 17 ans, qui a été tué par un colleur d'affiche du Front National, Robert Lagier, le 21 février 1995 à Marseille.
Samedi toujours à 20h30 au théâtre Marie-Jeanne dans le 6e, un spectacle d'impro en soutien à la grève féministe du 8 mars.
Et dimanche à partir de midi à la Casa Consola, 1 rue Consola à Marseille, journée de soutien pour la Palestine, repas de midi à prix libre, vente aux enchères ludiques à partir de 16h.
Et juste à côté, le même jour, c'est au local Solidaire 29 boulevard Longchamp. De 14h à 17h, il y a des échanges et des discussions autour de la grève féministe.
Dimanche 25 à 17h au Gyptis, dans le cadre de la rétrospective Jocelyne Saab, projection du film « Il était une fois Beyrouth ».
Et toujours dimanche, de 17h30 à 19h30 au Manifesten près de la Plaine, c'est la permanence du SPAM, soins psycho-émotionnels anti-répressifs et autodéfense Marseille. Viens te poser, boire une tisane ou un verre, consulter notre info-kiosque, discuter de soins anti-rep, des luttes ou ce que tu veux, partager des outils et ressources sous divers formats. Plus d'infos sur mars-info.org.
Lundi 26 de la semaine prochaine, à 18h30, toujours à Manifesten, comme tous les 15 jours, c'est le CAG. Le CAG, coordination des actions anti-gentrification. CAG comme cagé. Bref, du taudis au Airbnb, mal logement ou délogement, on n'en peut plus, on n'en veut plus, surtout avec les JO qui arrivent.
Et vendredi 1er mars à 11h14, lancement du cycle Live on Mars, un mois de web radio féministe en continu sur Radio Rageuse. Il y a un super jingle qui tourne actuellement depuis hier sur les ondes de Radio Calais.
Génial. Et le mercredi 28, juste avant, de 14 à 17h comme toutes les semaines, c'est la permanence juridique pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Ça se passe au local de l'AUP, Association des usagers et usagères de la PADA, au 62 boulevard du Jardin Zoologique près du parc Longchamp. Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous, vous serez bien accueillis.
Et enfin, et pour finir, c'est le week-end prochain, le 2 et le 3 mars, c'est le week-end antiraciste à Marseille. Table ronde, atelier, repas, le samedi et le dimanche. Rendez-vous à 13h, place Cadena, donc à la Belle de Mai, pour manifester contre l'avenue de Le Pen et Bardella, Bordello plutôt, à Marseille, clôturé par des concerts. Et plus d'infos bientôt. Préparez-vous à chier.
C'est la fin de ces infos.
Et voilà.
Merci.
Il est 12h59.
Merci la technique.
Merci la technique. Merci aux amis qui ont contribué de près ou de loin.
Merci à vous.
Et on se retrouve vendredi.
Et on laisse l'antenne
à l'agenda alternatif.
Youhou, bisous, bisous.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.